Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue sur Esprit Occitanie. Pour commenter cette actualité, je suis aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je dis aujourd'hui, puisque nous sommes toujours tous les trois, donc l'équipe est immuable. Vous les connaissez, Jean-François Mignard, le secrétaire national de la Ligue des droits de l'homme, Pierre Larouille, économiste et essayiste et beaucoup d'autres casquettes que nous ne citerons pas pour ménager sa modestie.
Proverbial.
Voilà, alors aujourd'hui, nous avons quelques sujets, on va parler du compteur Linky, on va parler de ce fameux service national universel, on va parler de Merkel, sa droite et les migrants, et puis on parlera de la communication de Macron qui a l'air un peu de vaciller sur ses bases, et puis bien sûr toutes les autres rubriques, vous en avez l'habitude. Alors, j'ai ouvert en parlant du compteur Linky. Vous savez ce que c'est, ou pas trop peut-être, hein. Au début de l'été quand même 12 millions de compteurs Linky devraient être posés par la société Enedis, qui est une filiale à 100% d'EDF. Si les poses continuent à ce rythme, 35 millions de compteurs pourraient être installés et 39 millions en 2024. Alors 35 millions en 2021, 39 en 2024, c'est le rythme de croisière que s'est fixé Enedis. Est-ce que ça va se poursuivre selon le rythme prévu? C'est pas si sûr. Le 7 février, la Cour des comptes dénonçait à ce sujet un projet extrêmement coûteux, puisque de 5,7 milliards d'euros, alors coûteux à la fois pour le consommateur et avantageux pour le distributeur, c'est ce que dit la Cour des comptes. Dans la foulée, l'UFC Que Choisir appelait à refuser de payer pour Enedis. La CNIL, elle, dénonçait, je la cite, « l'absence de consentement à la collecte de données de consommation » issu du compteur Linky. Des manifestations anti-Linky ont eu lieu un peu partout sur le territoire. Les inquiétudes des uns et des autres sont motivées, d'une part, par le droit à la santé, par le droit au respect de la vie privée, par le nécessaire consentement des utilisateurs. Mais il faut dire aussi que la communication d'Enedis sur ce nouveau compteur a été assez pitoyable et traitée sur le mode technocratique, ce qui fait que les adhésions qu'il y aurait éventuellement pu avoir n'ont pas eu lieu sur cette question. Messieurs, qui veut commencer? Pierre Larouille va commencer, un grand spécialiste du compteur Linky.
Ah oui, je suis un grand spécialiste du compteur Linky. On l'avait évoqué, je crois, il y a un mois.
Tout à fait, tout à fait.
Ce sujet, comme ça, on l'avait effleuré. Et puis on voit que les choses ne font que s'amplifier en posant plein de questions. C'est que, premièrement, on voit bien qu'il y a des questions que légitimement les citoyens se posent. Et visiblement aussi, la pédagogie d'Enedis ne suffit pas à répondre à toutes ces questions. De notre côté, on sent bien aussi qu'il y a, je ne dirais pas un point de vue irrationnel, mais que Linky est visiblement le nom d'autre chose que celui des données et d'un compteur. Et donc on peut se demander de quoi Linky est-il le nom. Et troisièmement, du coup, on est en train de créer une fracture au niveau des politiques qui se retrouvent coincées entre une position de suivre leurs concitoyens et de dire « Ah ben voilà, j'accompagne votre refus ou en tout cas votre résistance », ce qui peut poser des problèmes, notamment des coins. Et la métropole toulousaine ou ses voisines sont quand même très liées aux technologies, au déploiement des technologies. On parle tous les jours d'innovation, de start-up, de trucs, de machin. Et puis, chaque fois que quelque chose s'imposerait, on verrait une résistance à la fois populaire et démocratique, puisque les élus la relayeraient. Donc, on se retrouve au cœur de plein de contradictions. Il me semble que ces contradictions, elles sont puissantes. Elles traduisent en fait un sentiment de déracinement, de spoliation. Un sentiment que je fais remonter aux années 90, où assez curieusement on se souvient que par exemple quand le traité de Maastricht est passé un peu au forceps, François Mitterrand avait beaucoup utilisé le terme de subsidiarité. Et il s'agissait de rester proche des gens, on allait vers l'éloignement des décisions technocratiques que si on était obligé. Et puis force est de constater que la technocratie s'est visiblement développée, et la subsidiarité, pas tellement. Et donc on s'aperçoit que progressivement, depuis 20 ans, les gens se disent « mais les élites travaillent contre nous, tout ce progrès n'est pas partagé, on ne sait pas ce qu'il faut et dans l'intérêt de qui, Tout ça ne va pas dans l'intérêt général. Donc on est finalement au cœur d'un grand malaise contemporain que l'on voit dans nos campagnes, mais que l'on voit aussi bien dans des poches urbaines, y compris dans la métropole toulousaine. Et puis, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a des gens dans le rural, par exemple, qui se sentent effectivement concernés par ce compteur Linky, mais simultanément, on voit ce qu'on appelait avant les bobos, qui, dans une réaction d'une autre nature, on ne sait pas s'ils ont un petit ressentiment de perte de pouvoir ou de quoi que ce soit, se joignent à eux et partagent cette cruelle résistance face à Enedis. Donc voilà, je voulais ouvrir le débat, qui est beaucoup plus complexe, me semble-t-il, que le compteur qui n'est plus bleu, mais qui pose quelques problèmes.
Jean-François Mignard.
Oui, on en avait effectivement parlé, et à ce moment-là, j'avais évoqué le fait que, comme on dit chez les Jambiens, j'avais eu à en connaître, associativement parlant, au niveau de la Ligue des droits de l'homme, puisqu'on avait beaucoup été interpellés sur cette question-là. Alors, c'est un peu, je partage l'avis de Pierre Laroui, c'est un peu ce qu'on appelle un fait social total, cette histoire de Linky, c'est-à-dire que à travers ce phénomène-là, on voit apparaître, à travers cette situation, cet épisode, on voit apparaître des tas de choses qui sont signifiantes de ce dans quoi on est. Nous, on avait beaucoup insisté, on ne s'était pas du tout, je parle « on » là, je peux parler « jeu » à un moment donné aussi, on ne s'était pas du tout, d'abord on s'était renseigné, ce qui n'est pas toujours le cas par rapport à la réaction qu'il y a eu concernant ce compteur-là, et notamment on avait demandé un certain nombre de garanties concernant la question qui était la question de la sauvegarde des données personnelles, puisqu'il s'est quand même dit beaucoup de choses sur Linky qui étaient pas sérieuse, enfin, au sens de... le compteur Linky permettrait de savoir combien il y a de personnes dans la maison, voilà, et donc permettrait d'avoir accès à des réalités du quotidien des uns et des autres, ce qui est quand même pas si... Faut des fois sortir un peu à la paranoïa, voilà. Donc on s'est inquiété de ça, on avait très, très, très courageusement refusé de rentrer dans le débat de l'électrosensibilité, qui est encore autre chose. Par contre, on avait beaucoup insisté sur peut-être ce qui fait je pense aussi le cœur du problème, c'est la manière dont les choses ont été faites. C'est-à-dire que là, alors c'est un fait social total au passage, quelque chose que Pierre a oublié d'évoquer, enfin où il n'a pas eu le temps d'évoquer quelque chose, c'est que c'est très significatif. On l'a même vendu au nom de la nécessité d'une liaison dans le droit français, d'une directive européenne. Ce qui n'est pas, c'est évident que ça, semble-t-il. Autrement dit, c'est la faute à l'Europe, cette affaire-là. Vraiment, on est dans le pataquès habituel sur ce genre de choses. Enedis, ex-EDF, s'est comporté concernant le compteur Linky comme l'EDF se comportait à les années 60 en France. Voilà, je suis d'autant plus sensible à ça que je suis fils de Jean EDF.
Vous êtes au courant.
Et je suis extrêmement au courant.
Merci, je ne pouvais pas la louper.
Mais il est toujours en prise sur la réalité.
Ne perdez pas le fil.
Non. Pas de méprise. Oh là là. L'incarnation que pouvait représenter EDF et que semble-t-il essayer de représenter encore l'organisation qui suit, de représenter l'intérêt général. Et donc d'être légitime à contraindre les gens à devoir subir un certain nombre de choses au prétexte, et peut-être fondé des fois, que l'intérêt général n'est pas forcément l'addition des intérêts particuliers, et que donc on est, en tant que citoyen et citoyen, contraint à un moment donné de limiter ses propres désirs, envies et tout, parce que ça sert aux autres d'une certaine façon. Voilà. Sauf que ça se fait. Ils l'ont fait comme ça. Enfin, il y a eu des choses, des épisodes qui sont des épisodes réels, c'est-à-dire qu'il y a eu des prestataires de services. Il faut savoir que la pose des compteurs Linky a été mise en place par des prestataires de services, parce qu'on a déconstruit le service public au passage. Je ne veux pas jouer le truc, mais c'est une des réalités.
C'est comme pour le téléphone, quand on se fait poser le téléphone, on voit arriver des qui sont des prestataires de services.
Qui sont des gens, alors moi je ne veux pas tirer sur les prestataires de services, mais qui sont des gens qui sont à la tâche, d'une certaine façon, et qui ont bousculé ici un petit vieux qui ne comprenait pas pourquoi on lui touchait au compteur, ou à d'autres endroits, sont arrivés et ont fait un forcing terrible chez les gens vulnérables ou se sont opposés. Bref, ça s'est fait à la hussarde, cette affaire-là, et ce truc-là ne marche pas. Je crois qu'on est, on n'est plus dans une société dans laquelle ces choses-là, comme ça, s'imposent. À partir de là, il y a eu la cristallisation de toute une série qui est une série de fantasmes.
Moi, c'est personnellement ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si je suis un bobo, mais c'est ce qui m'est arrivé. On m'a appelé en me disant, ben, monsieur, ah, on va vous poser le contrat. Voilà. Je lui ai dit, je ne vous ai rien demandé. De quoi vous mêlez-vous? Vous ne venez pas parce que ça va très mal se passer. Mais on m'a dit, on va plaider. Mais j'ai dit, on plaidera, c'est pas grave. Et puis, je gagnerai.
Ça tombe bien, oui.
Ça tombe bien, venez, moi, ça ne me coûte rien et vous allez perdre. Oui. Et puis, ils se sont repliés en bon ordre et j'ai plus entendu parler de rien. Mais s'ils ne tombent pas sur un mauvais coucheur comme moi qui a un mauvais caractère en tant que bon catalan et lotois tout à la fois, et s'ils ne tombent pas sur quelqu'un qui ne se laisse pas intimider, ils passent en force.
Bien sûr.
Et c'est ça qui est désagréable.
Et c'est ce qui s'est passé. Et je trouve que la situation est un peu tragique parce que, de la même manière que ça a été imposé. Pas intelligemment, pas entre guillemets démocratiquement, on va dire. Hein, et il y aurait à tirer des fils là-dessus. Hein, aujourd'hui, ça bat en retraite de manière un petit peu piteuse, ce qui arrange rien dans cette affaire-là. Hein, on n'est pas du tout. Il n'y a pas du tout un discours tenu là-dessus, y compris de gens qui ont tenté d'imposer des choses, parce que. Après tout, il y a légitimité à imposer des choses à des gens par rapport effectivement à des idées d'intérêt général et tout. Là, on a l'impression qu'on est dans une espèce de désescalade et de marche arrière un petit peu piteuse et où on a en négatif, on a en symétrique la position offensive et autoritaire qu'on voulait avoir. Je suis pas sûr qu'on puisse en tirer un minimum d'expérience et de leçons qui nous permettraient le coup d'après, effectivement, d'être un peu moins bête et collectivement.
On ne voit pas trop à quoi ce compteur va servir, parce qu'on dit que c'est un compteur communicant.
Oui.
Mais pour si qui... Alors, bon, voilà, est-ce que...
Techniquement, on voit bien à quoi il va servir.
Aujourd'hui, on sait pas demain à quoi il peut servir.
Oui,
c'est ça
sûr.
Le problème.
Hein. Mais ça, c'est
valable. Aujourd'hui, on sait que techniquement, on pourrait s'en servir pour améliorer et la distribution et optimiser la consommation pour le particulier.
Ça, c'est évident, ça.
Ce serait une bonne chose, parce que c'est uniquement pour éviter des frais... de relevés de compteurs ou quelques frais de contentieux, quasiment 6 milliards d'euros, c'est de la folie furieuse. C'est ce que dénonce la Cour des comptes, d'ailleurs.
Mais c'est un problème de gestion en temps réel.
Oui,
mais
alors voilà. Jacques Lavergne a raison de poser cette question, parce que, alors, on peut mettre en cause Enedis, et à juste titre, je parlais moi-même de subsidiarité, dire que c'est l'Europe, alors c'est, pour le coup, pour faire accepter les choses, c'est génial. Mais... où ça m'a échappé, et on vient de commencer à l'évoquer avec Lavergne, il y a quand même derrière un problème de transition énergétique.
Bien sûr.
Oui. Et où est Nicolas Hulot?
Oui.
Parce que le premier, quand même, qui devrait venir dire quelque chose là-dessus...
Ça, à cette occasion, comme à d'autres, j'ai envie de le dire. Mais je serai charitable pour le moment.
Il est à table, Nicolas Hulot, il est toujours à table, puisqu'il déguste les couleuvres à longueur de journée.
Oh.
C'est le côté catalan, ça.
Oui. Non, mais ça pose quand même une question. On est dans une société où on fait un effort sur la transition écologique, sur la transition énergétique, et à la première occasion où on dit Linky, c'est faux, c'est pas pour ça, à ce moment-là, il faut le dire, où on dit ce que vient de dire Lavergne, c'est que malgré tout, ça permet d'optimiser la consommation et donc, d'une certaine manière, d'optimiser...
Ça permet de l'optimiser pour autant qu'on l'utilise complètement, c'est-à-dire que le consommateur dise « oui, vous pouvez décoder », parce qu'il y a toute une phase technique qu'on maîtrise mal, mais c'est très complexe, vous pouvez décoder mes données. Alors jusqu'où va-t-on les décoder, jusqu'où va-t-on les utiliser? C'est ça qui inquiète certaines personnes. Moi, je n'ai pas envie que l'on sache quand est-ce que je suis chez moi, pas envie que l'on sache si je me sers de mon séchoir à cheveux ou d'un vibromasseur, ça ne regarde personne.
Oui, mais pardon, Jacques Lavergne, là, on s'accroche sur Linky. Il y a plein de choses qui sont déjà dans le domicile et qui donnent autant de données et qui sont beaucoup moins vérifiées.
Oui.
Et ça va s'amplifier.
Ce qui convenait n'est pas forcément un argument pour tout accepter. Mais c'est pas parce que se les fait mettre en place, si j'ose m'exprimer ici.
Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prêter à Linky d'être le seul cheval de Troie de la captation des données dans le domicile.
Certes,
on va s'apercevoir que son propre téléphone, d'ailleurs, que l'on pose soigneusement sur la table de nuit, peut donner beaucoup plus d'informations si on en a envie. Non, je crois qu'il y a un problème, c'est effectivement, ce n'est pas clair sur l'aspect positif ou pas de la transition écologique. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous deux, on est face de nouveau à de l'arrogance et du mépris, et ça passe très mal, et ça révèle. Derrière ça, il y a quand même une question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ce serait d'être progressiste aujourd'hui ? Parce qu'en fait, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le progrès qui est réellement socialement accepté ? On voit bien que les choses sont en train de se tendre. Et pour faire un parallèle qui n'a apparemment rien à voir, il y a aussi une notion assez curieuse avec l'histoire des 80 à l'heure. C'est pas de même nature. C'est pas de la technologie. C'est simplement que des gens se sentent aujourd'hui ciblés. Ils ont l'impression d'être abandonnés, encore une fois, par des élites qui roulent pour elles, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, ces élites-là sont censées rouler sur des autoroutes, alors que les autres roulent sur des départementales. Et les départementales, ça renvoie au vrai sujet. C'est alors nous, on s'en fout, quoi.
Il y a quelque chose qui a circulé sur les réseaux sociaux. Vous avez une voiturette parce que vous n'avez plus de permis, vous roulez à 70. Et puis avec le permis, vous allez rouler à 80. On se demande pour 10 de plus si ça vaut vraiment le coup. Enfin, ça devient ridicule, 80 à l'heure. Il y a des routes, effectivement, qui sont suffisamment dangereuses pour que l'on baisse. Mais là, il faut laisser ça au préfet, à l'équipement et au département. On ne va pas imposer sur toutes les routes secondaires en France de rouler à 80. Ça tombe de Paris, on vous dit, ben maintenant, vous allez rouler à 80, puis maintenant, on va vous placer un compteur, et puis maintenant, il faut arrêter quand même, voilà, il faut arrêter.
Donc Jacques Lavergne a redit, en fait, ce qu'on a dit déjà sur l'Europe, ce qu'on a entendu...
J'ai reformulé pour...
Redit et ouvert de manière remarquable, en disant, nous, on n'avait malheureusement parlé que de l'Europe, et là, c'est Paris. Oui. C'est-à-dire, en réalité, des gens ne se sentent pas concernés, ou plus exactement, résistent à des décisions dont ils ne savent pas d'où elles viennent et pourquoi elles sont faites, prises, pardon. Et on est dans ce jeu. Donc, je reviens sur la question, malgré tout, qui est que dans une société en pleine mutation technologique, on aurait beaucoup de mal à dire ce que ce serait être progressiste aujourd'hui. Et le discours politique, d'ailleurs, ne le porte pas.
C'est pire que ça, on aurait du mal à dire ce que c'est que le progrès aujourd'hui.
Absolument, mais d'en avoir la langue.
Dire ce que c'est que le progrès, c'est une chose. Après, est-ce que rouler à 80, est-ce que c'est du progrès ? Parce que le progrès, on peut toujours le définir. Le progrès, c'est ce qui permet d'aller mieux demain plutôt que la veille. Mais est-ce que de rouler à 80, tout le monde est universellement sur tout le territoire, est-ce que c'est un progrès ?
De manière générale, que ce soit pour les 80 à l'heure ou pour le compteur Linky, le grand absent du sujet, c'est le politique. C'est-à-dire que le tiers de confiance politique a disparu.
Oui, ça
c'est... Et donc, comme on a écrasé le plan moyen et que maintenant, vous l'avez bien constaté avec les réseaux sociaux, les gens se parlent de manière bilatérale et frontale entre une plateforme et un individu, et donc il n'y a plus aucun tiers de confiance. Et on voit bien comment aussi les télés en temps réel et en continu sont dans la même veine. Il n'y a plus de médiateur réellement, puisque nous sommes dans une radio. Les journalistes ont perdu la place au profit des chroniqueurs ou simplement des agitateurs d'images qui passent en permanence. Donc on a une disparition du tiers de confiance et on sait en général à quoi ça amène. Et c'est quand même la grande crainte générale aujourd'hui.
Il y a quand même une question aussi que l'on peut se poser, c'est Kennedy, c'est 100% EDF. EDF, son métier, c'est de vendre de l'électricité. Donc, plus vous vendez, plus vous êtes content. Puis, vu la dette qu'ils ont accumulée et qui n'est pas encore absorbée, on ne verra pas, nous, son absorption, nos âges. Même les jeunes qui sont avec nous dans le studio, on peut se demander s'ils n'ont pas intérêt, eux, à vendre le maximum d'électricité. Or, le compteur Linky, parce qu'il pourrait rationaliser la consommation, ne va pas du tout dans le sens de l'électricien. L'électricien est là pour vendre de l'électricité.
Et ça, ce n'est pas sûr du tout. Je pense qu'EDF peut effectivement faire des gros gains de productivité par une meilleure gestion des paquets d'énergie nécessaires.
Qui ne se stockent pas.
Tout en baissant sur les quantités. Donc je crois qu'au contraire, c'est une transition vers un modèle productif qui peut être plus intelligent à la fois pour le consommateur et à la fois pour EDF. Encore faut-il le démontrer, visiblement. Notre discussion prouve que pour l'instant, en tout cas, la démonstration n'est pas faite.
Et que les 5 milliards et demi et plus vont peut-être ne pas être rentabilisés dans l'immédiat. Mais ça, on a l'habitude.
Concernant Linky, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le changement, le rapport... C'est pas tant la question de la définition du progrès que du rapport que nous entretenons à l'idée de progrès. Voilà, hein. C'est que j'ai une petite anecdote. Mon père, à la fin de sa carrière, travaillait sur ce qu'on appelle les lignes à très haute tension. Hein. C'était du... Hein. Et au passage des pylônes. problème, ça. Hein. On est obligé de mettre des pylônes pour que l'électricité passe, parce qu'elle passe par des fils. Et il s'agissait de négocier avec les petites communes le passage des pylônes dans les espaces qui étaient les espaces publics. Mon père m'a raconté que quand il avait à discuter avec un maire et que ça se passait mal avec le maire, il se levait, il allait à l'interrupteur, il éteignait le maire, il disait voilà, ça sert à ça, ce qu'on est en train de négocier. Et en règle générale, ça se passait bien. Voilà. Et ça, je ne sais pas si ce truc-là. Et ça se passait bien, c'est-à-dire que la personne qui était en responsabilité, d'une certaine manière, disait, bon, ok, intérêt général, etc., etc. Là, non. Alors, perte de confiance des politiques, d'une part, verticale, perte de confiance horizontale aussi, hein, c'est-à-dire la perte de confiance des uns par rapport aux autres.
Ah oui.
Hein, et ça... Ça, je pense qu'il faut, il faut clairement entendre, et je pense que c'est fini, on n'imposera rien aux gens. Enfin, on n'imposera plus aux gens les choses de la même manière. Et Linky, c'est...
Oui, mais manifestement, dans certains bastions, tels que l'EDF ou d'autres, c'est pas encore passé dans les esprits.
Oui, mais alors, moi, je voudrais en même temps aller en sens inverse de ce qu'on se dit là, pour une autre crainte. Parce que, en fait, Lavergne a commencé à évoquer le sujet. On dit on fait rentrer quelque chose au domicile qui est susceptible oui. de... Et je vous ai remarqué qu'il y avait plein d'autres choses qui y rentraient et qui allaient y rentrer. D'une certaine manière, on aurait pu attendre du politique que finalement, il y ait une sorte d'intégrateur de l'ensemble des capteurs dans un seul truc qui serait malgré tout garanti dans la confidentialité par les pouvoirs publics. Alors que là, nous sommes en train de rentrer dans une concurrence des capteurs, dont le mélange et d'ailleurs la pertinence, parce que comme vous le savez, les capteurs peuvent échanger entre eux, on rentre dans un monde qui est effectivement un peu ubuesque, et en tout cas plutôt kafkaïen d'ailleurs qu'ubuesque, et qui fait très peur.
C'est la loi du marché, ça. Hein
oui.
Et donc, en concurrence.
Et donc, à partir d'une certaine manière, le politique a perdu aussi le tiers de confiance, et je suis d'accord, sur le vertical, mais dans l'horizontal. Au sens où il n'est plus maître des infrastructures. Et ça ne rassure pas.
Bien, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce sujet que nous avons exploré longuement. Je serai certainement amené à y revenir. Ce n'est pas tellement le compteur Linky, mais c'est vrai que ce qu'il révèle sur l'évolution de notre société et l'évolution du politique est quand même assez significative et intéressante. Deuxième sujet, le service national universel. Alors, vous savez, ce fameux SNU rentrera en application l'été 2019, il concernera les garçons et les filles de 16 ans. Une des promesses de campagne de celui qui n'était pas encore à l'époque, le chanoine de Latran, qu'il est devenu depuis, et une idée qui fait toujours débat, car elle est loin de recueillir une approbation unanime. Une idée qui, dans l'esprit de son concepteur, devait permettre, et alors je cite sa secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq, qui a interprété la pensée de Manu en disant il faut renforcer
Monsieur le Président,
il faut renforcer la cohésion nationale, accroître la faculté de résilience de la nation, être un temps de détection des difficultés, d'orientation, d'information, de prévention. Bon, voilà. C'est une pensée complexe, nous ne savons que celle de Manu. Ce ne sera donc pas un service militaire tel que certains autour de cette table, vu leur grand âge, ont pu connaître, mais ce sera un engagement, entre guillemets, consenti. Alors, je ne sais pas comment on peut dire qu'il est consenti, puisqu'il est obligatoire, mais il sera civique, nous dit-on. Alors, c'est encore un peu flou, mais sur cette question, quelle est votre position, les uns et les autres? Qui sait comment? Jean-François Mignard.
Allez, je suis un peu... J'allais dire effondré, mais partagé entre effondré, excédé et un peu fasciné par ce qui se passe. Alors, c'est une promesse, c'est vrai. Bon, ça fait partie des promesses que le président tente de tenir. On pourrait dire que c'est bien. Non, il s'agirait de brasser socialement des générations de Français de façon à retrouver de la cohésion et du sens de l'altruisme et du sens de la solidarité ou des choses comme ça. D'une part, je pense que on sent bien d'ailleurs que tout ça, le gouvernement avance et le président avance sur des œufs parce que cette affaire-là est assez mal engagée. Il n'y a pas grand monde qui est prêt à aller, qui est prêt à suivre ce truc-là, qui au passage s'est largement dégonflé. Quand on a entendu, moi c'est un truc quand j'en ai entendu parler, je me disais tiens. Ségolène Royal, hein, elle a fait des émules, hein, je vous rappelle. Hein, on est orphelin du service national et tout ça.
Pour que... Ségolène.
Voilà. Et ça s'est dégonflé. Ça devait, semble-t-il, avoir une envergure nettement plus importante que ça a été évoqué à la campagne. Maintenant, on est dans une espèce de machin. Un mois avec 15 jours en internat, pardon, en résidence, en résidentiel, c'est plus soft, hein, 15 jours consacrés à participer à des projets dans le secteur associatif, avec la possibilité, dans un troisième temps, de s'engager dans du volontariat civique un peu plus long, sous des formes qui existent d'ailleurs aujourd'hui, service civique, etc. etc. Voilà. Je suis très perplexe sur la capacité à y compris le faire. Dans ma vie, j'ai été permanent associatif dans une association d'éducation populaire qui travaillait beaucoup sur la question qui était la question des vacances, des stages de formation des jeunes, ça s'appelait les CMA. Et notre outil de base, c'était le stage de base en résidence sous 8 jours. Vous savez, on formait des moniteurs de colonies de vacances. C'est pas très loin, hein, comme profil. Hein. C'était des jeunes de 17 ans qui souhaitaient s'engager pour un petit peu s'occuper des enfants des autres de manière un petit peu intelligente. Voilà. Donc, on aurait un truc comme ça, d'ailleurs, qui serait, hein, au passage, encadré par des jeunes entre 18 et 25 ans, c'est-à-dire que les 16 ans seraient engagés par les 18-25 ans, qui eux-mêmes seraient sur des statuts qui seraient des statuts de volontaires. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'usine à gaz, c'est-à-dire que les plus jeunes seront formés par les un peu moins jeunes qu'eux, hein, tout ça supervisé par des militaires. Dont un sang militaire
et des grands frères.
Il y aurait les grands-pères qui seraient les militaires.
Si, si, moi, les militaires ou l'éducation nationale. Alors, il semblerait que maintenant, l'éducation nationale, M. Blanquer, ait repris le pas en disant non, ce sera plutôt sous l'égide de l'éducation nationale.
Alors, pour le moment, ils se partagent, ils ne savent pas. Est-ce que c'est l'éducation nationale serait partie pour sur la deuxième partie, celle des projets ou le truc comme ça. Enfin, bref, voilà, on ne sait trop rien. Moi, je leur souhaite bien du plaisir, au passage, quand même. Parce que foutre une génération de 16 ans, ça lui demander son avis pendant 15 jours, dans un internat encadré par des jeunes qui sont eux-mêmes à la recherche d'eux-mêmes, et tout ça par des militaires ou des enseignants,
on l'a eu fait dans le passé, hein, vu nos âges, nous avons tous fait service militaire. On était encadré aussi par des militaires.
On
y a survécu.
J'ai roué la charité, oui, mais alors je ne suis pas sûr qu'on y ait gagné grand-chose.
Gagné, non, mais.
Non. Et il ne faudrait pas non plus que ce truc-là ne se termine pas ne tourne pas à ce que c'était que le service militaire, qui était que suivant qu'on était socialement bien ou mal placé, on ne faisait pas le même service militaire non plus, au passage. Hein, voilà.
C'est vrai, moi je n'ai pas fait mon service militaire à Toulouse. Fait à Francazal, je n'étais pas.
Moi, je suis un mauvais patriote, je n'ai pas fait mon service militaire. J'étais soutien de famille, qu'est-ce que vous voulez.
Ah, déjà, voilà. Vous aviez donné.
Et j'ai déjà donné. J'avais déjà donné.
C'est la même situation. Jean-François, ça ne se surprend pas du tout.
Non.
Et je pense votre maturité affective et sexuelle est encore une fois de plus vérifiée.
Je ne regrette pas, je pense que ça aurait été plus productif.
Ça 68 heures.
Oui. Voilà. Le, par contre, ce que je voudrais pointer, c'est ce machin-là. Ce machin-là qui proposait autour des jeunes, autour de donner un peu de sens aux jeunes, se passe alors qu'on est en train de systématiquement démanteler tout le secteur associatif. On est en train de laisser pourrir sur pied du potentiel qui existait, qui était les centres de vacances, 16 ans. Hein, c'était les candidats, 16 ans. Hein, moi, j'ai encadré des candidats. Et où on faisait effectivement le même genre de choses, sans forcément que ce soit encadré par des militaires, avec des jeunes et jeunes, avec des jeunes qui en avaient envie. Autrement dit, ce truc-là est une, je trouve, pantalonnade politique, et y compris en termes d'objectifs, je ne suis vraiment pas du tout sûr que ça puisse atteindre les objectifs que ça vise.
L'idée de départ n'est pas idiote, c'est-à-dire peut-être de brasser. Moi, c'est vrai qu'au service militaire, vous ne l'avez pas vécu, donc moi, je vais être le seul à porter mon témoignage. J'ai rencontré des gens.
C'est très important.
Oui, merci. Ouais. J'ai rencontré des gens que je n'aurais certainement pas vu ailleurs que j'ai. Avec qui, d'ailleurs, j'ai gardé des contacts. Il y a eu cet effet de brassage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas plutôt à l'éducation nationale affecter 2 milliards quelque part. Il y a déjà les structures. Autant peut-être les améliorer, leur donner les moyens.
Mais
juste plutôt que d'inventer cette machine à gaz.
Mais non seulement il y a les structures qui existent déjà, mais vraiment, je peux vous garantir qu'on est en train de les démanteler. Hein, c'est-à-dire que tout le secteur qui est le secteur associatif qui faisait ça, mais c'est vrai que c'est l'ancien monde peut-être, hein, est en train d'être démantelé au bénéfice de je ne sais pas trop ce qui nous attend.
Allez, Pierre Larousse.
Je vais C'est passionnant hein, ce que vous racontez. Je vais essayer, donc, essayer d'ajouter quelque chose avec un éclairage un petit peu différent, peut-être un peu décalé. Je me demande si la difficulté que l'on a nommée et à définir ce projet ne correspond pas en fait au problème de l'identité, qui est au cœur visiblement du débat politique contemporain, du débat sociétal contemporain, avec parfois la plus grande démagogie et parfois la plus grande nécessité. Et on sent bien malgré tout que d'une manière ou d'une autre, on a besoin, alors que les communautarismes montent de tous les côtés pour un oui et pour un non, je ne parle pas forcément d'ailleurs de communautarisme négatif et dangereux, mais il y a des méthodes de plus en plus comme ça communautaires dans la société qui rentrent en conflit et en écho négatif avec quelque chose qui serait de l'ordre de l'individuation et de l'identité tout court. Ça, c'est un premier problème. La deuxième chose qui m'apparaît, alors Mignard a commencé à le dire, c'est que, non, je crois que c'est Jacques Laverne, c'est que finalement, on a un souvenir de la conscription comme étant une prise de pouls de la vraie vie des Français.
C'était parfois une prise de pouls aussi, tout court.
Oui.
Nous, à l'époque où les gens avaient les cheveux.
Oui, vous n'en avez plus, donc vous ne pouvez pas en parler.
Il est très difficile de tenir une conversation à peu près sérieuse.
C'est terrible, mais c'est l'été qui arrive. C'est l'été qui arrive.
Non, mais regardez comme c'est intéressant à l'époque, quand même, y compris les sociologues s'appuyaient beaucoup sur ce qui ressortait ou ce qu'ils découvraient pendant soit les trois jours, soit le service. Aujourd'hui, c'est des algorithmes qui le font. Et on peut être tenté de se dire que ce mois-là ne serait-il pas l'occasion d'assumer ce conflit de l'information comportementale des Français entre l'information donnée par les algorithmes et les réseaux sociaux et quelque chose de plus charnel, de plus incarné. J'ai envie de dire que c'est un peu comme si on remettait une biologie du vivant face à quelque chose d'un peu déshumanisé, dont on n'est pas sûr, on l'a évoqué tout à l'heure avec Linky, qu'à chaque fois on saisisse bien de quoi on parle. Et peut-être que la coupure aujourd'hui entre les élites et le peuple provient du fait qu'en réalité, ils ne s'entendent pas. Mais au sens premier du terme, c'est qu'il n'y a pas, d'écoute parce que simplement il n'y a pas de rencontre. Et donc, je comprends que ça soit très difficile, et je suis d'accord, c'est une usine à gaz. On ne sait pas trop pourquoi elle est faite, mais en fait, plein de choses ramènent à l'idée que malgré tout, ce brassage dont parle Jacques Laverne serait sans doute très nécessaire.
Juste deux mots, le brassage, bien entendu. Je suis sidéré par le fait qu'on est en train, là, pour le coup, de réinventer l'eau tiède. Hein, c'est-à-dire que, vraiment, moi, je sors, par exemple, hein, de 8 mois de travail avec 2 services civiques dans le cadre associatif, où je trouve qu'il s'est passé des choses qui sont aussi, enfin, qui ont vraiment à voir avec ce que ce projet-là serait censé faire. Hein, et encore une fois, je ne comprends pas, enfin, ou j'ai peur de comprendre, plutôt, hein, pourquoi ce truc-là est mis en place, qui est... C'est un petit côté politique qu'on ne l'a pas évoqué, de politique, de stratégie politique, qui est de flatter aussi, et de flatter aussi, hein, pas que, mais de flatter aussi cette espèce de posture qui est la posture du hein, voilà, on va revenir à des bonnes vieilles pratiques. Et je pense qu'il doit y avoir des jugulaires qui se réjouissent chez nous, concitoyennes et nos concitoyens, hein, sur voilà, cette espèce de retour. Hein, on reviendrait au service militaire. Je pense que c'est vraiment absurde.
C'est peut-être
absurde.
Une opération de communication sur laquelle nous viendrons tout à l'heure. Ça s'inscrit peut-être dans ce cadre-là. Je vous propose d'aborder à présent notre troisième sujet, Merkel, sa droite et les migrants. Alors sur les migrants, il ne vous a pas échappé que les membres de l'Union européenne peinent à trouver une position commune. Ils sont certainement en train de s'y employer au moment où nous parlons. Mais enfin, on n'a pas trop d'illusions. Les pays membres s'éloignent notamment, et je suis là dans l'euphémisme, des valeurs fondatrices de la communauté, à commencer d'ailleurs par notre président,
qui n'a pas brillé par son imagination, ses propositions humanistes, notamment au moment de l'épisode de l'Aquarius ou dans les malencontreuses leçons qu'il a données aux nouveaux dirigeants italiens. Tu l'aurais certainement pu faire l'économie, ou sur ses dernières considérations sur les organisations humanitaires qui tentent de pallier les défaillances des États. Eh bien, en Allemagne, pays d'ordre s'il en est, la question divise aussi. Le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, exige de la chancelière allemande un durcissement de la politique migratoire. C'est un ministre qui représente la CSU, donc l'aile droite de la coalition. Il menace même d'ailleurs d'instaurer unilatéralement un contrôle des frontières dès le début juillet. Et donc Angela Merkel doit faire face à une vraie rébellion de sa droite et peut-être aussi à une lecture de la constitution allemande pour savoir qui a la prééminence, si c'est Angela Merkel ou si le ministre de l'Intérieur peut faire ce qu'il veut, puisqu'il est aussi chef de parti. C'est la première chose qu'il a dit, je suis chef de parti, il est chef de parti, donc finalement nous sommes à égalité. Ce n'est pas tout à fait ce que prévoit l'article 65 de la Constitution allemande. Sur cette question, Jean-François ?
Oui, je pense qu'on va vivre aujourd'hui et demain en Europe une opération de vérité. Effectivement, moi, je ne suis pas du tout optimiste sur la capacité que peut avoir l'Europe, on va appeler ça comme ça, hein, de sortir de cette crise-là. Ce qui se passe en Allemagne, je ne veux pas le surjouer, mais qui est quand même assez dramatique. Hein. La CSU, c'est la Bavière hein, aussi. Il est ministre de l'Intérieur et du Heimat, ce qui en allemand hein, est une notion.
Heimat.
C'est ça, qui est la patrie allemande, quoi, hein, qui a été beaucoup utilisée à une période sombre de l'histoire, comme on dit, hein, et que la droite allemande, visiblement, est ressortie certainement pas par hasard. Hein, la CSU est en train désespérément d'essayer de chasser sur les terrains de l'extrême droite qui lui a taillé des croupières hein, aux dernières élections. Et Angela Merkel est effectivement aujourd'hui dans l'impasse, avec notons-le, une gauche qui est une gauche à fond.
Ça, on a l'habitude chez nous. On
peut... Voilà, qui n'existe pas. Donc, on est en train d'aller dans le mur. Yeah, parce qu'y compris, que si on tire le fil sur les propositions de la CSU, hein, qui serait de fermer les portes et éventuellement de négocier avec les pays de manière bilatérale environnant la question qui est la question des réfugiés. Les deux premières réponses qu'il a eues d'entrée montrent que, par exemple, de la part de l'Autriche, un gouvernement qui est très très proche de lui, d'emblée, a expliqué effectivement que ça se marcherait pas comme ça, qu'il prendrait pas de réfugiés venant d'Allemagne. Voilà. On est au bout d'une très longue d'une histoire dramatique qui est celle des migrations et des réfugiés qui est en train de faire exploser l'Europe, mais aussi de faire exploser des références qui sont des références idéologiques. C'est-à-dire, ce qui se joue à travers ça, ce n'est pas que la question qui est la question des réfugiés. L'avenir d'Angela Merkel n'est pas que son avenir à elle, c'est l'avenir d'une certaine conception de l'Europe. Hein, sachant que nous avons maintenant quelques encablures des élections européennes dans lesquelles on peut imaginer que ce qui va se dire va...
Et n'oublions pas que dans 4 mois, il y a des élections régionales en Bavière et que je pense que le ministre de l'Intérieur bavarois travaille sa réélection.
C'est ce que j'évoquais.
Plutôt que de s'occuper des migrants dont il n'a strictement rien à faire. Pierre Larouille, qui ne s'est pas exprimé sur ce sujet.
Non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Mignard a dit très brillamment et que je partage. En plus, les Allemands ont déjà souffert à la Coupe du Monde de foot, donc je ne vais pas rajouter à leur situation. Je vais me concentrer sur les paragraphes suivants de notre rencontre.
Il y a quand même quelque chose qui apparaît, c'est que la crise migratoire aujourd'hui, malgré ce que l'on en dit, elle est derrière nous. C'est-à-dire que le nombre de migrants a été considérablement divisé. J'ai entendu, je crois, le chiffre divisé par 20. Je ne sais pas s'il est exact, mais donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de problème migratoire. Il y a des flux qu'on a connus dans le passé. Et donc, tout le monde en parle, mais c'est devenu un problème politique,
un problème déjà de l'Europe qui a failli et qui n'a pas fait ce qu'il fallait, un problème de certains pays qui n'ont pas soutenu ce qui était en première ligne, c'est-à-dire le Sud, puisqu'ils montent du Sud. Hein, donc les pays du Sud, c'est les premiers qui les ont. Il y a tout ce système des Dublinés aussi qui était complètement stupide. Donc on se rend compte que, un, l'Europe a failli sur... elle a trahi ses principes fondamentaux. Deuxièmement, elle a trahi aussi la solidarité nécessaire entre les États membres. Elle a mis en place des systèmes juridiques complètement aberrants. Et tout ça, maintenant, se retrouve au niveau des politiques locales où le populisme fait son œuvre. L'Italie, le gouvernement italien n'a été élu que sur cette question, alors qu'elle est peut-être un peu aujourd'hui dépassée.
Oui, oui. Enfin, je remarque que quand je vous écoute, on parle de la CSU, on parle de la droite... j'entends pas beaucoup non plus la gauche.
Ça ne m'avait pas échappé, je l'avais évoqué justement.
Que ce soit en Allemagne, en Italie ou en France.
Bien sûr. Donc,
il y a un problème de la parole tout court, de la parole politique sur ces sujets qu'on a abandonné depuis longtemps.
Et on est en train, c'est dramatique, de jouer sur le terrain qui est le terrain de prédilection de l'extrême droite.
Et puis le double langage peut-être de M. Macron n'arrange rien non plus, parce que d'un côté, il nous brandit en permanence des grandes valeurs européennes, ce en quoi d'ailleurs on peut le rejoindre, il a raison, mais sur le territoire national, on voit ce qu'il fait, c'est-à-dire rien. L'Allemagne a accueilli toujours de tout temps, il y avait les réfugiés yougoslaves avant, il y a eu les Turcs à une certaine époque, il y a eu les derniers, puisqu'elle en a accueilli 900 000, certainement l'Allemagne est le pays qui de loin, de très loin, et même de plus loin que la France, a accueilli le plus de réfugiés aujourd'hui. On n'en tient pas vraiment compte de ça. La moue est intéressante, mais n'est pas radiophonique.
Non, c'est vrai. Alors moi, j'ai tendance, effectivement, des fois, à faire la moue.
Mais il vaut mieux que vous fassiez la moue que la guerre, mon cher.
Oui, bien sûr. je m'attendais à pire. Et hier, j'étais ici dans le même studio avec Cédric Héroux, on a longuement parlé pendant une heure de cette question-là. Je pense que la question des réfugiés est une pierre de touche aujourd'hui du débat qui est le débat politique. Ça va largement au-delà de la question qui est la question des réfugiés, parce que ça touche aux fondamentaux. Voilà, hein. Et la manière dont on en sortira sera certainement très, très marquante par rapport à notre avenir. Voilà.
Oui, mais c'est quand même... Il faut le rappeler, parce qu'on entend toujours quand même parler de ces milliers et milliers de « boat people », entre guillemets, comme les appelait autrefois, qui arrivent, mais en réalité, il en arrive plus tôt que ça. On se situe aujourd'hui au fond du débat politique dans chacun des pays, et ce que l'on entend n'est pas très réjouissant.
On a été efficace, on a laissé mourir... On a laissé se noyer un certain nombre de gens, on a maltraité... On a été ignoble avec des familles.
Mais c'est une politique d'être ignoble. C'est-à-dire, regardez, on est ignoble. C'est ce que fait Trump. Hein. On vous sépare de vos enfants, nous sommes ignobles. Ne venez surtout pas, lorsque vous arrivez.
À la fois, une partie de l'objectif est atteint conjoncturellement, mais structurellement, cette question-là est devant nous et la manière dont on l'affrontera, elle sera déterminante, je pense.
Absolument. Le temps avance et donc nous allons passer à notre quatrième sujet, Pierre Larrouille, sur cette question. Nous sommes des béotiens, nous sentons bien qu'il y a quand même des choses qui tournent plus rond chez Manu, mais monsieur le Président. Alors la question, c'est Pierre Larrouille qui avait formulé un peu le quatrième sujet, la communication de Macron dévisse-t-elle ? Alors est-ce qu'il dévisse notre Président Pierre Larrouille ?
Oui, je crois qu'il dévisse et que c'est grave. Je crois qu'il est passé d'une tentative de communication du en même temps, du vertical et de l'horizontal, à ce que j'appelle une communication diffractive. Je vais y revenir.
Et l'expliquer, parce qu'une communication diffractive...
Moi je suis preneur d'une explication.
Il va falloir nous donner le décodeur.
Je crois que notre président a eu d'emblée un petit problème entre son vertical et son horizontal. C'est-à-dire qu'effectivement, il a quand même restauré pendant quelques mois une notion de fierté, etc., qui a plutôt bien fonctionné. Et de l'autre côté, il vendait un pragmatisme, mais ça n'a jamais suscité l'adhésion. Les sondages l'ont montré, ça fait un an que ça ne colle pas et qu'au contraire, l'écart entre le vertical et l'horizontal s'amplifie. Alors il s'est passé ensuite trois choses, deux qui sont assez faciles à repérer, la troisième sur laquelle j'espère pas vous étonner, mais j'espère que vous allez réagir. Les deux premières, c'est que sur le plan du vertical, il est malgré tout un échec. ce qui se passe, on vient d'en parler, en Europe, ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Trump, etc., ne sont pas quand même des très bons signes d'une réussite internationale comme on l'espérait. De notre côté, on voit bien que l'ensemble des mesures qui sont prises de manière soi-disant pragmatique suscitent quand même pas mal de conflits, de pseudo-révoltes ou de vraies révoltes, et surtout lui colle une image de président des riches. Mais je crois surtout qu'il a un caillou dans la chaussure, qui s'appelle Édouard Philippe.
Du latin scrupulum.
Voilà.
Édouard Philippe a l'air d'être un caillou très irritant, le garçon est de bonne composition, non ?
Eh bien, je crois le contraire. Je crois que le président, du même temps, entendait sans doute faire 2-3 ans où il fallait prendre des mesures, où il se montrait disruptif, courageux, réformateur, pour revenir ensuite en bon élève de Ricoeur vers des choses plus consensuelles, plus humanistes. Simplement, au bout d'un an, on a l'impression, alors que nous allons vers les élections locales dans 18 mois, 2 ans, eh bien on a l'impression qu'Édouard Philippe est en train de lui fermer la porte en lui disant « Non, non, tu es le président qui permet à la droite de se reconstituer et je suis d'ailleurs le leader de cette droite. » Et on ne le voit peut-être pas apparaître de manière si forte, mais quand on va sur le terrain, quand on voit que le Premier ministre revient de Chine en disant « Je vais finaliser le... » le voyage du président. Quand on l'a vu à Toulouse il y a quelques jours, venir passer 3 jours pour... Alors certains ont voulu croire qu'il a Doubaine Boudin, je ne suis pas si sûr que ça. Mais en tout cas, il vient visiblement faire du terrain. On appelle ça comme ça.
Il va faire de la com' surtout.
Je ne crois pas, je crois qu'il fait de la politique.
Oui.
Et c'est en ça qu'il devient... Il est en train de fermer une porte sur... l'enthousiasme macronien, je crois qu'ils vont lui faire porter les réformes et récupérer les bénéfices. Et je pense que ce président, qui est intelligent et communicant, l'a très bien compris, mais du coup, il s'énerve. Ça se voit dans ses gestes. Reprenons l'exemple de ce jeune garçon qu'il a appelé Manu. Finalement, la réaction n'est pas très choquante non plus au bon Valérien. Ce n'est pas forcément du meilleur goût ce qu'a fait ce jeune garçon. En revanche, quand il revient et qu'il fait de la com' et qu'il explique toute cette logique de la réussite, il y a quand même plein de Français qui disent « Attends, on n'a pas tous fait Sciences Po et l'ENA. » Et donc, il s'installe comme ça.
Il a peut-être du mal à l'imaginer lui-même, ça, effectivement.
Peut-être. En tout cas, il y a une image un peu de mépris qui est en train de s'installer. C'est pour ça que je... Et cet énervement plus ce mépris... arrive à créer effectivement une communication diffractive. On a l'impression qu'il envoie des scuds tous les jours de la manière la plus provocante possible. C'est-à-dire qu'il est en train de rompre complètement avec la communication équilibrée qu'il avait lui-même prônée. Alors pourquoi je considère que c'est dangereux ? C'est dangereux parce que si l'on regarde bien, tout le monde dit qu'il y a une révolte qui couvre, mais en réalité il n'y a aucune dynamique politique nulle part. Le paysage politique est atone. Les grèves n'arrivent pas non plus à déboucher. Il ne se passe pas grand-chose. Moi, j'attribue ça au fait que les Français sont quand même des gens de bon sens au plan politique et qu'ils se disent que s'il échoue, on va dans un mur très grave. Le problème qui peut se poser, c'est que s'il continue sur cette voie un peu arrogante, au bout d'un moment, le couvercle va sauter. Et donc, je pense que c'est très préoccupant et qu'il serait peut-être temps qu'il rafraîchisse son équipe qui est peut-être un peu usée et qu'il remette un peu de chair dans la machine, parce qu'au bout d'un an, ça fait quand même beaucoup.
Est-ce que son équipe est véritablement usée, parce qu'elle était quand même relativement jeune, donc les jeunes, ça s'use moins que les vieux. Est-ce qu'ils n'étaient pas surtout un peu innocents, un peu niailles, comme on dirait en Provence?
Je crois qu'il y a les deux, mais je rajouterais que c'est une équipe très restreinte parce qu'il fait confiance à très peu de monde et qu'effectivement, elle manque relativement d'expérience. Elle est très brillante, mais elle manque de chair.
Jean-François Mignard.
Bon, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que d'abord, Pierre est infiniment plus compétent que moi pour en parler.
Son passé parle pour lui.
Et avec brio, qui plus est. Le Macron est un président entre... Alors, c'est un président de droite qui a du mal à faire une politique de gauche. Et tout ça, Allez, je vais me lâcher, tiens, je vais me lâcher un petit peu.
Oula, attention.
Tout ça m'intéresse relativement peu, en fin de compte, parce que c'est l'écume, cette écume qui est de savoir qui c'est qui, effectivement, là-dedans, va tirer les marrons du feu.
Je suis pas sûr que ce soit de l'écume, Jean-François.
Non, sur le c'est moi qui est en train de reprendre la main sur la droite, etc., etc., sur le champ qui est le champ de la politique. Mais c'est vrai que je suis pas trop intéressé par la politique. Je suis plus intéressé par le politique, comme disait le camarade Castoriadis. C'est-à-dire sur les enjeux de... C'est pas dédaigneux ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que c'est un peu comme le foot ou le truc comme ça, quoi. On est spectateur dans ce genre de choses-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique de l'acteur aussi, c'est-à-dire de pouvoir y faire quelque chose. L'impression que c'est complètement déconnecté, effectivement, de ce qui est en train, ce jeu-là, hein, cette espèce de communication. Est déconnecté, est en train de se déconnecter de plus en plus de la réalité, effectivement, de ce que vivent les uns et les autres. C'est un débouché politique, effectivement, et que le discours qui était de dire « votez pour moi pour éviter l'extrême droite », je me demande si on n'est pas dans un effet qui est un effet retour, parce que s'il n'y a pas de débouché politique à cet endroit-là, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Si ça marche moins bien, j'ai du mal à m'en inquiéter que ça marche moins bien la communication de Macron.
Ouais, bah je serais pas dans le ça marche moins bien. Moi, j'ai la sensation. Alors, ça fait la deuxième fois d'une certaine manière qu'on voit ça et on le repère, y compris à la physiologie. C'est arrivé avec Manuel Valls. Je trouve que ça arrive avec Macron, oui. C'est-à-dire qu'on passe de l'autorité à l'autoritarisme.
Oui.
Hein, on sent cette tension dans les mâchoires.
Ça veut dire qu'on dérape, ça veut dire qu'on ne maîtrise plus et qu'on est un peu perdu face aux réactions des autres.
Exactement.
Oui, et puis qu'on était certainement dans une représentation surplombante dans laquelle on imaginait qu'on avait des solutions, qu'on savait par où il fallait qu'on passe, et que d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins de risettes et de hein, il fallait que les gens en passent par là. Il y a une incapacité du personnel politique, des appareils politiques, à s'emparer du potentiel qui est le potentiel social de la société civile ou des
Est-ce
choses
qu'on ne revient pas au y a début une... de notre discussion sur le fameux compteur linkiste.
Il y a même de la communication. J'ai un truc anecdotique. On parlait de la politique de la ville, le numéro que nous ont joué de tête à queue Borloo et Macron, dans lequel Macron explique que ce n'est pas deux mâles blancs hein, qui doivent faire la politique des quartiers et qui va flatter dans le sens du poil quelques mères de famille dans le quartier du Petit Bar, que je connais très bien d'ailleurs. Hein,
la personne qui l'a confiée à Castro est intéressante.
Mais moi je suis comme Saint-Thomas. Hein, là, j'attends de voir. Le rapport Borloo était par ailleurs assez intéressant.
Saint-Thomas avec Castro, c'est intéressant.
Ce sera l'occasion de... Voilà. Mais c'est de la com, c'est-à-dire que tout ça se traduit par effectivement une déconstruction de choses qui étaient extrêmement critiquables, certainement peut-être, mais par la mise en place de, à terme, je pense, rien. Si ce n'est le renvoi à la bonne volonté et à l'engagement sans moyen qu'on renvoie aux gens, voilà.
Pierre, un dernier mot pour conclure.
Oui, je ne crois pas que ça soit seulement de la com. Ça pose quand même un problème aujourd'hui qui est, alors pour le coup, un problème du politique, qui est de savoir s'il est possible de tenir une langue politique à la fois verticale et horizontale. Et je crois quand même que c'est plus préoccupant qu'un problème de communication quand on voit aussi les groupes d'extrême droite qui ont été arrêtés, qui sont visiblement une mesure préventive. Et qui sont, je suis en train de vous raconter ce qui se passe, je l'ai vu, parce que c'est quand même ça ce qu'on nous raconte, je crois que c'est plus préoccupant qu'un simple problème de communication. C'est très révélateur.
Mais on va renvoyer à un certain livre de Michel Houellebecq, peut-être, qui a peut-être été quelque peu visionnaire, on ne l'espère pas, mais enfin bon.
Très souvent, c'est cher Michel.
Messieurs, on arrive au terme bientôt de notre émission. Donc une brève, moi j'en ai une, c'est la suppression de l'ISF, alors on le sait, hein, qui entraîne quand même une chute importante des dons aux associations, notamment aux associations caritatives, ce qui est quand même un problème.
52%.
Oui, et qui s'inquiètent pour leurs finances, pour leurs activités. Alors un effet pervers, hein, comme il y en a souvent sur certaines mesures, dont on peut se demander s'il a bien été envisagé par Bercy. Peut-être qu'ils l'ont envisagé, peut-être que la fameuse théorie du ruissellement va remédier à cela, quoi qu'on puisse un peu en douter, parce qu'elle paraît quand même remarquablement fumeuse comme théorie. Allez, nous arrivons à notre avant-dernière séquence, le ça va mieux. Qui c'est qui a un ça va mieux ?
Moi, j'étais très content de voir, je ne le fais pas tous les jours, franchement, l'annonce de Carole Delga sur la malbouffe et les mesures qu'elle prend. Et le volontarisme de la région sur ces sujets me paraît de très bonne loi, surtout que je crois que nous aimons tout ça ici.
Oui, absolument. Oui, je partage complètement.
Alors
moi, j'en ai un, ça va mieux, c'est à l'autre bout du monde. C'est vraiment une émission qui est une émission à géométrie variable. Le tribunal de San Diego, en Californie, et un juge fédéral a condamné les pratiques du président américain et a mené effectivement à une réunification des familles immigrées. Et en même temps que l'État de la Californie s'est déclaré État sanctuaire quant à la politique d'immigration et d'accueil des réfugiés, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Alors moi, pour ma part, ben, d'abord j'en ai deux. Un qui n'est pas si loin que ça, c'est la Pologne, qui a reculé sur la loi très controversée sur la Shoah. Ce n'est quand même pas une mauvaise chose, parce qu'il faut bien dire quand même que dans ces pays, il n'y a pas que des gens absolument négatifs. Il y a aussi tout un électorat qui a du mal à se faire entendre, certes, mais qui existe et qui a des idées bien différentes de celles des gouvernants. Et puis une autre qui m'a amusé et qui m'a fait plaisir, c'est que la ministre de la Culture, vous le savez, elle avait bâti sur Arles son acte Sudland, là, si je puis dire, hein, un quartier entier qu'elle avait entièrement phagocyté autour de sa maison d'édition, qui est une très jolie maison d'édition d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, mais toutes ces constructions avaient été faites au mépris des règles les plus élémentaires d'urbanisme, au mépris des interdits et observations du maire, bon, qui s'est vite arrêté, hein, le maire, il s'est mis un peu sur le devant de la scène, puis il a reculé très vite, et surtout des architectes du patrimoine qui ont dit ce qu'il fallait. Et là, madame la ministre de la Culture, elle commence, puis le canard enchaîné, ça allait en Paris, nous a fait une belle demi-page, très renseignée et très factuelle, à tel point d'ailleurs qu'on se demande si elle va même pouvoir rester au gouvernement, même si on a envie de la sauver. Voilà.
On peut espérer que ça ne soit pas un témoignage d'un acte du Sud.
L'intérêt général, toujours l'intérêt général.
Voilà, mais que certains encore continuent de bafouer, et ben, c'est une bonne chose que parfois on vienne un peu les gratter là-dessus. Séquence culturelle, puisque j'ai la parole, je la garde. Pour ma part, je vais vous conseiller un livre qui me paraît extrêmement intéressant, c'est celui de Sylvain Tesson, qui vous propose de passer un été avec Homer, un livre qui a démarré assez fort, mais qui a été édité aux éditions Équateur, et c'est une transcription des émissions qu'il avait données en juillet-août sur cette même chaîne, et où il invitait les gens à plonger avec lui dans l'Iliade et l'Odyssée. Donc si vous voulez retrouver un peu la Grèce et puis le fondement de notre civilisation, Un été avec Homer de Sylvain Tesson. Jean-François.
À l'ère du matriarcat, ça part.
Oui.
Deux choses. Pour les Toulousains, c'est ce soir. Hein, à Mixart, Paroles passagères, extrait de poèmes de Mamour Darwish et de Brad Chaker. Hein, allez-y, c'est à 20h30 à Mixart.
Et puis Mixart, rappelez l'adresse parce que
Mixart, c'est quartier des Ponts Jumeaux, c'est 12 rue Ferdinand Lassalle, hein, c'est près du boulevard de Suisse. Voilà. Et puis très rapidement, un livre. Tout à l'heure, on parlait de vie idéologique ou des choses comme ça. Un livre qui a le mérite de se lire facilement, des fois de quelqu'un qui écrit pas toujours de manière aussi claire que ça, qui est Michel Ujurka. Ça s'appelle Face au mal. Le sous-titre, c'est Le conflit sans la violence. Hein, aux éditions textuelles, ça me paraît d'actualité.
Pierre Larouille.
Une information, des félicitations à Catherine Aira qui a produit un film courageux sur Adam Smith à Toulouse, avec la collaboration parfois surprenante d'Alain Alcouf et le gentilhomme le prix Nobel. Tout ça était très sympathique.
Merci messieurs, merci Jean-François Mignard, merci Pierre Larouille, c'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne, avec à la réalisation, on avait Alain, on avait Valentin qui est même assis par terre, d'ailleurs on dit tout aux auditeurs. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur le site internet, et puis vous pourrez réentendre la rediffusion ce week-end.
Et demain, je pense, matin ou dans l'après-midi, vous verrez en suivant l'antenne. Belle journée à tous et à toutes.